À CJSO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux.
Wow. Bon vendredi tout le monde. Bienvenue à deux, c'est mieux. À trois, c'est d'accord, mieux oui, aujourd'hui. Oui, oui.
Ça s'appelle un trouble.
Je vais vous inviter à prendre trouble. Vos micros, ça va aller mieux oui. pour faire de la radio.
Il y a les couples et puis il y a les troubles.
Oui.
Alors nous, on est un trouble dans le trouble. Non.
Sophie Fauché, Marc Hervieux, bonjour. Comment
salut,
ça va?
Salut.
Yeah. On est heureux de découvrir ce restaurant de déjeuner exceptionnel.
Marc le connaît déjà un peu.
Oui, moi je suis venu ici plusieurs fois jaser avec Luc, puis avec plein de monde aussi. Ah, c'est toujours agréable de venir. Mais là, l'affaire, c'est qu'on était ici la semaine passée,
ben oui.
nous. Hein, samedi passé, on était à Sorel. Donc, on a campé
devant le restaurant depuis une semaine.
Une chance qu'on avait le Winnebago, comme on dit.
Comment ça s'est passé, ce premier spectacle-là? Parce que c'est une création. Et ouais. c'était ici que ça se passait pour la première fois.
Mais comme on disait tantôt avec des gens qui sont ici au restaurant, tu sais...
Il y a du monde!
Tu sais, une création, l'affaire, c'est que tu as répété pendant plusieurs semaines en salle de répétition, mais tu n'as aucune idée, dans le fond, c'est quoi la vraie réaction, puis à quel moment il y en a une, pour toutes sortes de raisons, parce que
on
c'est drôle, parce que c'est triste.
On avait quand même planifié les applaudissements après les chants de Marc. Il m'a même dit une fois en répétition, alors qu'il n'y avait personne, « Rentre pas trop vite.
» Ce qu'elle fit. Non, mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas facile savoir... ou prévoir, bien que on a une idée, évidemment. Dans les dernières semaines, on a eu un peu de nos amis qui sont venus, donc on sait un peu. Mes filles sont venues voir la générale, donc on sait un peu.
Ma maman.
Mais, tu sais, dans l'effet de foule, il y a des fois, des moments où tu sais pas si la foule va entraîner tout le monde à une réaction qu'on n'avait pas prévue. Mais le public de samedi à Sorel avait vraiment la barre haute parce que la première spectatrice qu'on a eue, c'est la maman de Sophie qui est venue dans la semaine de générale. Imagine pour moi là, qui s'immisce dans le monde du théâtre, je joue avec Sophie Fauché puis j'ai comme public Françoise Fauché. Aïe aïe la pression!
C'est bien, il s'est forcé. Non, mais enfin, moi, j'ai vécu ça. Il y avait... j'ai écrit le texte avec ma grande amie Anne Bryan. Donc, entendre vos réactions, voir que ça peut rire à certains moments, qu'il y a un silence incroyable pendant les chants, justement, quand on entend Maria Callas chanter et que les gens sont émus. Et puis après, vos commentaires, très, très, très précieux. Je veux dire, c'était... Il y a des petits raccords à faire et c'est certainement aussi dû à des choses qu'on a pu mettre en lumière grâce à cette soirée-là. Mais moi, en plus, ce qui me fait rire, on est trois sur scène. Il y a Marc Hervieux, Dominique Bouliane qui fait l'accompagnateur au piano et moi. Et je suis entourée de deux hommes qui ne connaissent pas ça, le trac. Fait que ça m'énerve encore plus parce que moi, je me dis, mon Dieu, je m'en fais pour tout le monde finalement, mais ça donne absolument... Ils ont raison de ne pas avoir le trac. C'est pas une chose qui... C'est pas un plus, c'est pas une nécessité. Mais moi, disons que je l'avais très fort parce que justement...
Mais c'est en fait que nous, on a décidé de ne pas l'avoir parce qu'elle l'avait pour trois, comprends-tu? Vu qu'elle l'avait pour trois, Sophie, on s'est dit, ben, on va pas en rajouter.
Il y a un métronome au début du spectacle qui fait tac, tac, tac. Moi, j'ai dit, sachez qu'à ce moment-là, même si je fais semblant de dormir, moi, mon cœur, il fait tac, 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 tac. Mais très vite, j'étais concentrée et... Et je racontais, j'avais le plaisir de raconter une histoire d'une femme que j'admire, d'un artiste exceptionnel. Et je sais qu'il y a des gens qui la découvrent et il y a d'autres qui la réentendent. Mais de l'entendre, je veux dire, moi, je suis transportée à chaque fois. Pour moi, c'est la plus grande. C'est la plus grande. Et elle a eu cette phrase extraordinaire. Elle a dit, je ne suis pas une chanteuse qui joue la comédie. Je suis une tragédienne qui chante. Donc, c'est là où elle peut me rejoindre. Moi, quand j'ai fini mon conservatoire, je n'étais pas pire en classique puis en tragédie, tu sais, Phèdre, etc., etc. Donc, les sentiments démesurés, donc ça me permet, moi, d'aborder Maria Callas comme une sœur. Voilà.
C'est les 100 ans de Maria Callas cette année.
Oui, elle est née en 1923.
Est-ce que c'est de là que part l'idée de faire le spectacle? Est-ce que c'est en voyant le centième qui arrivait que vous avez décidé de créer ça?
Non. On a trouvé plutôt que rajouter que c'était le centième, ça faisait bien dans la publicité.
Ouais,
mais
ouais.
C'était un bon timing. Mais je voulais que ça se fasse dans cette date-là, oui, mais c'est pas ça.
Mais c'est d'abord et avant tout, c'est d'abord et avant tout de l'amitié. Parce qu'on a travaillé ensemble à la radio avec Pierre Brassard... et d'autres collaborateurs.
Parasol et Gobelet.
Parasol et Gobelet à Ici Première pendant plusieurs années. On a fait 6 ans ensemble, je pense. 7 ans. Bon, 7 ans. Ça m'a paru 6, tu vois.
ça m'a paru une semaine.
Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir. Et suite à ça, ben, on se disait, dans le fond, ça serait bien de pouvoir faire des choses ensemble. Et comme j'avais une série que je voulais faire à Ici Musique, qui était 12 émissions d'une heure sur Maria Callas, comme j'avais vu Sophie jouer les leçons de la Callas, ben, j'ai demandé à Sophie... Ça, c'est un peu la prémisse, mais je laisse Sophie raconter tout le reste parce que c'est quand même... Tu sais, c'est un projet qui va sur plusieurs années, tu sais, parce que quand tu prends une pièce qui a déjà été jouée, bon, ben, tu reçois le texte, puis tu répètes. Mais là, c'est autre chose, il y a la recherche et tout ça, mais je laisse Sophie...
Non, mais c'est ça, c'est que quand Marc m'a invité à faire son émission de 12 heures où on raconte la Callas, puis c'est une série que vous pouvez réentendre, moi-même, c'est ce que je vais faire parce que je ne me suis pas encore entendu, Marc, je suis désolé, j'ai raté la diffusion. Et on m'a confié toute la recherche. Alors, j'en avais déjà fait beaucoup pour jouer Maria Callas dans une pièce qui existe, qui raconte... Elle a enseigné un temps à Juilliard School à New York. Et c'est une pièce qui raconte ses cours avec les chanteurs. Mais ça, c'était, pour notre producteur Martin Leclerc, trop lourd à produire. Et avec toute la recherche que j'ai faite, et Marc qui me disait, on devrait inventer autre chose, on devrait en parler avec nos mots, avec ce qu'on sait d'elle, avec tout ça. Mais c'est beau de dire ça. Mais lui...
Moi, je disais ça, puis je disais, arrange-toi avec ça.
C'est ça! Donc, il faut avoir l'idée, il faut avoir tout ça. Mais quand j'ai fait la recherche, je suis tombée sur un livre extraordinaire qui s'appelle « L'ultime tournée ». Et donc, c'est Robert Sutherland, son accompagnateur, qui raconte les péripéties de ces chanteurs d'opéra qui font preuve de certains caprices parfois, qui ont des exigences, qui ont tout ça. Et donc là, je me suis dit, excusez-moi, monsieur l'animateur, comme il y a du public là, je ne vous regarde pas.
C'est correct, c'est correct.
C'est à vous que mon discours s'adresse aussi,
correct.
Ainsi qu'aux auditeurs. Bref, ce livre-là m'a donné le oum. J'ai dit, OK, on va situer ça à la fin de sa vie dans son appartement parisien, dans son intimité. Et elle se prépare avec ses complices, donc Robert Sutherland et Giuseppe Di Stefano, mon ténor sicilien préféré, pour une ultime tournée. Voilà. Et donc, le texte a plu. En fait, Martin Leclerc, notre producteur, est chapeau, merci. Il m'a dit oui avant que le texte soit écrit. Tout comme Robert Lepage a accepté le projet au diamant avant que le texte soit écrit. Ça, c'est quand on est rendu, mesdames et messieurs, au bel âge. Hein? On a fait un peu ses preuves avant et tout d'un coup, on vous fait confiance. Mais moi, ça m'a touché maximum. Puis, moi qui ai le trac, ça m'en rajoutait une couche en disant, faut pas que je les déçoive, là, maintenant. Hein? Mais donc, ça a été, tout a été fait. Il parle d'amitié, mais c'est vrai, on le dit. Je veux dire, c'est un beau projet fait avec nos cœurs et notre énergie. Et... Parce que rendu au très bel âge, on n'a plus le temps d'aucune contrariété, d'aucun travers sur notre route. Non, non, la vie est assez tough de même. Là, c'était le plaisir de la création et de parler d'une femme qu'on aime.
Mais il faut dire que moi, j'avais vu Sophie dans les leçons de la Callas, dont la pièce dont elle parle, à Québec. C'était dans le cadre du Festival d'Opéra de Québec, au Diamant, à Québec. Magnifique théâtre, évidemment, théâtre de Robert Lepage et puis de sa compagnie. Puis là, je vois Sophie que je trouve excellente, que je trouve magnifiquement bonne.
Ah oui.
Et puis, on parle plus tard de
je
la
dis
pièce.
Pas, ah oui, sur le fait que je suis bonne. Je me dis que ça me revient ton histoire.
Oui, c'est que moi, je lui parle de ça, puis je lui dis, écoute, moi, il y a des affaires, j'aurais pas monté ça comme ça. Tu sais, c'est touché, tu veux pas faire de peine ou tu veux pas, tu sais, avoir prétentieux.
J'étais d'accord.
Mais elle était d'accord avec ce que je lui disais, tu sais, sur comment c'était monté puis tout ça. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, elle finit par dire, ben, pourquoi t'as fait pas la mise en scène, tu sais, parce que Robert Lepage voudrait peut-être qu'on reprenne ça au diamant, blablabla. Puis tout de suite, à ce moment-là, j'ai commencé à lui dire, faut écrire quelque chose. Faut que ce soit nouveau. Faut que... La pièce est magnifiquement bonne, là, la pièce de théâtre des leçons de la Callas, adaptée en français par Michel Tremblay, d'ailleurs. Mais ça a été fait, ça a été refait plusieurs fois. Puis moi, j'avais plus envie que la Callas parle d'elle-même plutôt que de son métier ou des conseils qu'elle donne aux jeunes chanteurs dans la pièce de théâtre. Fait que je voulais qu'elle se confie sur Évidemment, sa vie, mais évidemment, il y a son métier, mais il y a sa vie personnelle, hein, parce que c'est une vie pas de bon sens, c'est une vie terrible avec sa mère, dès sa naissance, sa mère la rejette. Après ça, les hommes qu'elle a eus dans sa vie, ça a toujours été compliqué. Ce qui fait que tu te dis, écoute, c'est fou le paradoxe d'une personne qui est adulée autant, pas que sur scène, mais mondialement, pour ce qu'elle représente, ce qu'elle est, ce qu'elle a fait. Mais dans sa vie privée, ça va pas bien.
Et sa gloire, c'est sans les réseaux sociaux. C'est à une autre époque où ça n'existait pas. Donc, elle a parcouru le monde et elle a touché les gens en plein cœur à travers ses tournées et tout ça. Donc, c'est vraiment un phénomène, cette Maria.
Demain, ça fera 46 ans que Maria Callas est décédée. C'était le 16 septembre 1977,
demain.
Et dans la pièce, on la retrouve, donc, à cette époque-là, presque à la fin de sa vie.
C'est vers la fin de sa vie, oui. On va finir par mettre une date parce qu'on nous pose beaucoup la question, mais...
Moi, j'ai vu 77, donc on est vraiment là.
Ben, je m'intéresse à 76 aujourd'hui. Il lui reste encore certainement un certain temps à vivre, mais... je ne sais pas, on pourrait se mettre d'accord parce qu'on reste sur une ambiguïté. Mais en tout cas...
On est à la fin.
Maria Callas, demain, c'est une date, on va penser à elle. Elle nous a quittés à l'âge de 53 ans, ce qui est très jeune. Le cœur a sauté. Il reste d'ailleurs une énigme. On a parlé aussi, parce qu'ils ont, fait l'autopsie du corps très, très, très vite. Donc, on a parlé, est-ce que c'est un suicide? Moi, je ne crois pas, mais je crois qu'elle est morte d'amour, en peine d'amour.
Le cœur brisé.
Le cœur brisé. Et par trop de cocktails qu'elle faisait sans souci de sa santé, à savoir un tabac, un petit Valium, un tabac, un petit Mandrax, une amphétamine. Donc, un cocktail épouvantable. Et pas. Hein, Marc? Il a la bouche pleine, c'est bien, c'est pour ça que je parle.
J'ai dit à Sophie en retour de la pause, parle Sophie, je mange moi.
Alors bonne brochette, mais t'es d'accord
comme,
avec
comme,
ce que
comme Giuseppe Di Stefano, dans la pièce, il part pour aller prendre un peu des pâtes.
Oui. C'est toi le metteur en scène, je rappelle.
C'est toi qui t'as envoyé prendre une bouchée. Première mise en scène, puis avec une actrice de cette taille-là, c'est quand même capoté, ça, c'est extraordinaire. Oui,
5 pieds 8 et demi.
Non, en même temps, je lui ai déjà dit, des fois, au début, en arrivant à une répétition, ma nervosité était bien plus là que quand on la présente devant les spectateurs, parce que il y avait quand même une nervosité à me rendre crédible face à une actrice qui a énormément d'expérience. Oui, on est des amis, puis il n'y aurait pas eu d'esclandre, là. Sauf que t'as envie de ça, tu veux que l'actrice qui est ton actrice principale, parce qu'on est trois, mais c'est Sophie qui mène l'affaire tout le long, là. Je sais pas comment elle a fait pour apprendre ce texte-là. Aucune idée. Mais...
C'est un muscle, il faut l'entretenir, la mémoire.
Mais moi, j'avais
tout mon mois de juillet.
J'avais cette nervosité-là face à elle, puis ça s'est super bien passé, les répétitions, ça a été agréable. Mais c'est vrai que, si on revient à ce que tu disais sur le moment... Est-ce qu'on est en 75, 76, peut-être même 77, peut-être même quelques semaines avant qu'elle décède? Parce que vraiment, on pense que c'est pas nécessairement un suicide, bien qu'il y ait un doute, mais c'est plus le fait d'exagération de médication qui, à un moment donné, le cœur a dit c'est trop, là, tu sais.
Moi, je voudrais revenir sur Marc Hervieux, metteur en scène. C'est vrai que parfois, quand on dirige des amis, c'est même plus compliqué que des gens qu'on ne connaît pas, parce que les amis, on veut les ménager, on veut surtout pas les blesser, on veut pas que ça entache. Imaginons qu'il avait, avec mon texte, il avait eu une conception, on met ça justement en 2028, une vision futuriste, je dis n'importe quoi, avec de la bébelle et tout, j'aurais pu dire, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, etc. Bon, donc, moi, je lui faisais entièrement confiance. Marc vient du monde de l'opéra, quand même, c'est son premier métier, je me trompe pas, et Marc est foncièrement gentil. Jamais, jamais il y aura une note donnée pour te blesser ou te rabaisser ou t'humilier, même, parce qu'il y a des metteurs en scène que c'est une méthode, ça. On va la secouer un peu, ça va lui faire sortir ce qu'elle a en dedans. Ce n'est pas ma façon de faire. Moi, je suis pour la création dans la joie. Et ça a été en permanence de la joie, même des fois on avait tellement de plaisir à se retrouver que c'était... Il faudrait quand même peut-être répéter, hein? Tellement on avait de l'anecdote.
Moi, j'étais toujours pris dans le trafic, parce que j'habite dans les Laurentides, puis on répétait tout le mois d'août à Longueuil. Fait qu'il fallait que je traverse la Rive-Nord, Laval, Montréal, puis j'arrive. Fait que j'étais toujours pris dans le trafic. Ça me prenait toujours 3 heures me rendre à la répétition. Puis là, je regardais, puis je le prévoyais, mais... Fait que j'avais toujours un peu de retard, puis dans l'auto, je me disais toujours, de toute façon, ils vont jaser pendant une demi-heure, tu sais.
Pas juste ça. On savait qu'il arriverait à bout à cause du trafic, donc on calculait une demi-heure supplémentaire pour le remettre en état. Mon Anne Bryan qui lui préparait des petits biscuits.
Non, attendez, là, j'avais la panoplie de j'ai pris 20 livres pendant les répétitions. Les petits biscuits, les petits poissons, les raisins, il y avait de tout devant moi. Ils ont su me prendre par le ventre.
Mais d'avoir le metteur en scène et une des auteurs sur le show, est-ce que ça aide?
C'est particulier.
Parce qu'on peut changer des choses, on peut corriger tout au long de la tournée, si on veut.
Ouais. Mais si on se compare justement au monde de l'opéra, c'est ça qui est exceptionnel. Parce que nous, à l'opéra, à part quelques mini-exceptions... veut dire le compositeur et l'auteur sont morts depuis longtemps. Ils sont vraiment morts depuis longtemps. Donc là, dans ma vie, j'ai fait Nelligan quand même, où il y avait Michel Tremblay qui était là, même André Gagnon, sauf la dernière production du TNM, mais les autres productions que j'ai faites, André était là tout le temps. Donc ça amène quelque chose de différent. Et là, imagine les deux autrices, parce que Anne Bryan n'a pas manqué, je pense, une seconde de répétition, était là à chaque fois avec son ordinateur, toujours prête à corriger, parce que des fois, tu sais, dans une création, des fois tu dis, ah, il me semble que là, je dirais ça de cette façon-là, ou ça. Même qu'à un moment donné, une semaine avant de rentrer en salle, on a pris des répliques à une place, on les a ramenées comme 3 pages plus tôt, on a mis de la musique, on a.
Parce que dans le spectacle, que c'est vrai. C'était une erreur de nous, les auteurs. On avait dit, Maria épuisée, en écoutant un des extraits de sa gloire passée, va s'assoupir et même avoir s'assoupir, même s'endormir. Je le fais. Et là, ça m'apparaît évident. En pleine nuit, là, ça, c'est pas, on n'est pas en répétition. J'ai dit, ça n'a aucun sens. J'ai dit, moi, j'écris un spectacle pour rendre hommage à Maria Callas. Et dans la pièce, je mets Maria Callas qui chante et moi qui l'incarne, je m'endors sur sa toune. J'ai dit, ça ne s'appelle pas un hommage, ça s'appelle un dommage. J'ai dit, je suis arrivé à Marc le lendemain, j'ai dit, c'est impossible. Les spectateurs, ça n'a pas... Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça ne marche pas. T'as bien raison. Il dit, moi, je respectais les auteurs. Ben, j'ai dit, il faut toujours les écouter.
Non, mais et c'est là, vrai que moi, j'avais...
Comme un casse-tête. Ça a été très stimulant comme répétition, très créatif.
Ouais.
Et c'est beaucoup plus fort ce qu'on a trouvé. Enfin, venez le voir.
Non, mais moi, j'avais... Tu sais, je lis le texte, évidemment. Je fais une mise en scène en fonction du texte que j'ai. Bien sûr, l'avantage qu'on avait de l'amitié et du fait qu'ils sont là, ben on pouvait discuter facilement. On se sentait pas, là, tu sais, j'ose pas le dire ou quoi que ce soit. Non, on discutait toujours.
Ça aurait été bête, parce que le but de nous, ça n'attaquait pas Marc, ou quand je disais non, je pense pas, ou inversement, notre seul but commun était de vous présenter le meilleur spectacle possible.
Ben oui.
Donc, on est dans la création. Et donc, ça, c'est ça.
Puis tu sais, dans cette situation-là, si dans le texte, T'as l'indication qu'elle écoute une de ses pièces, puis peut-être qu'on veut nous faire sentir que justement elle a pris beaucoup de pilules, a pris beaucoup d'alcool. Fait que même en s'écoutant, elle s'endort sur son. Puis que là, les répliques qui suivent, c'est pardonnez-moi, Robert, je me suis assoupi, blablabla.
On a
coupé. Là, tu dis, OK, ben je respecte ça. Mais quand l'actrice, qui est l'autrice aussi, t'a dit, « Hey, il me semble que c'est pas ça. Hey, parfait, là, on a un terrain de jeu. » Donc, je me souviens très bien de cette répétition-là, ce soir-là, où on devait faire un enchaînement. Et finalement, on a refait tout ce bout-là, qui est plus vers la fin, là, tout ce bout-là, juste avant la deuxième entrée de Giuseppe Di Stefano. On est parti de la salle de répétition gonflé à bloc. T'sais, on était excités par ce qui venait de se passer, puis on s'est dit, hey, on vient de faire un pas de géant. C'est ça qui est le fun dans la création, t'sais, c'est qu'à un moment donné, t'es dedans. Pis moi, en plus, j'ai trouvé ça difficile un peu des fois d'être metteur en scène et de jouer, t'sais, parce que quand je jouais, j'arrêtais pas de regarder soit Sophie, soit Dominique pour être sûr qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont à la bonne place, que ça fait du sens. J'étais pas capable de me regarder parce que de toute façon, je jouais pas vraiment, tu sais, parce que...
Non, ça, c'est vrai.
J'avais... j'avais qu'elle dirait ça. Mais c'est spécial comme sentiment, Puis là, plus tard, tu réussis à vraiment commencer à jouer parce que tu sens que tout le monde est à l'aise. Mais moi, c'est une préoccupation importante de savoir que dans ce qui n'est pas la mise en scène, ce qui est du trafic, là, la mise en place, on commence par ça quand on fait une création. Juste dire, ben là, tu vas aller de là à là quand tu dis ça, puis là, tu vas t'arrêter, tu vas t'asseoir quand tu dis ça, tu vas te relever quand tu dis ça. Ça, c'est vraiment du trafic, ouais. Là. On commence par ça. Puis après ça, des fois, ça peut changer parce que on travaille le texte. Oups, on le sent pas de la même façon. Moi, je suis assis en avant, j'ai mon assistante extraordinaire, Geneviève, qui était là, puis qui me dit dans l'oreille, Sophie, là, est pas à l'aise présentement, là, hein, se rendre de A à B, là. Ça fait pas son affaire. Je le vois aussi. Fait qu'on veut, tu sais, que ça soit fluide pour qu'après ça, l'interprétation soit facile. T'sais.
Dans le spectacle, Maria Callas a quel regard sur sa carrière?
Oh! Sur sa carrière, je pense qu'elle a un
admiratif.
Ouais, sur ce qu'elle a accompli. Parce que quand même, là, pour les gens qui la connaissent pas, faut dire, tu sais, parce qu'on est là, Maria Callas, mais... Elle a laissé une trace absolument spectaculaire dans le monde de l'art lyrique, de l'opéra, parce que avant elle, les chanteuses, les chanteurs arrivaient, ils s'installaient, ils chantaient, bougeaient puis ils sortaient. Mais non seulement ils ne bougeaient pas, mais ils chantaient du mieux qu'ils pouvaient chanter, peu importe la condition du rôle ou de l'air ou de ce que c'est. Par exemple, il y a une anecdote que moi je trouve savoureuse dans la pièce où Maria explique que quand elle a décidé de trafiquer la voix un peu au troisième acte de Traviata parce que ce personnage, Violetta, est en train de mourir de la tuberculose, elle a trafiqué la voix pour faire entendre, tu sais, la faiblesse. Ben, les premières fois qu'elle a fait ça, il y a un journaliste quand même, un critique, qui a dit « Maria Callas était bonne, mais au troisième acte, elle avait l'air fatiguée. » Tu comprends? Donc, c'est surtout qu'on était... On était ailleurs complètement là, de ce monde-là à cette époque-là. Donc ça, c'est ça. Et je pense que sur le métier ou sur le monde de l'opéra, elle a des gens qui ont été vraiment significatifs pour elle, dont elle parle dans la pièce. Mais quand même, il y a un côté où elle parle du côté moins drôle de ça.
Et on sait qu'à la fin de sa vie, elle allait voir des productions, puis elle disait « Mon Dieu, il se fiche du compositeur, il n'y en a que pour le metteur en scène. » Il y a eu une période, et c'est vrai, et même au théâtre d'ailleurs, où les signatures des metteurs en scène prenaient plus... On montait un Molière, on s'en foutait de Molière, c'était de le réinventer à tout prix. Et ça, Maria Callas, vers la fin de sa vie, ça la heurtait. Toutes ces libertés qu'on prenait. Elle avait une approche plus... Elle qui avait révolutionné le monde de l'opéra, elle avait dans sa conception et de sa rigueur plus de classicisme que d'accepter là, toutes ce qu'elle considérait comme des fantaisies, puis des fioritures, puis de la bébelle autour de l'œuvre. Elle avait une admiration maniaque du compositeur, de l'auteur de l'œuvre. Ça, fallait respecter ça.
Dans sa vie privée, on l'a dit tout à l'heure, rejetée par sa mère, très jeune, rejetée par les hommes, et dont Aristotonazis. Est-ce que celui-là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Est-ce que c'était...
Je sais pas, en tout cas, il lui a procuré beaucoup de bonheur. Elle dit d'ailleurs de lui qu'avant de le rencontrer, elle savait pas ce que c'était que l'amour, vraiment. Il lui a permis de se révéler à elle-même. Ça a été 9 ans d'une relation intense. Mais c'était un monsieur que j'aurais pas fréquentable.
Elle a quand même appris la nouvelle du mariage
avec Jackie Kennedy
dans les journaux. Tu sais, fait que c'était pas. On peut pas dire que c'était la délicatesse.
L'argent achetait tout pour Onassis.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est drôle parce qu'on relie beaucoup ces histoires d'amour difficiles avec. La perte de sa voix qu'on relie, elle, souvent avec sa perte de poids pis tout ça. Moi, je suis de l'école qui dit que le poids n'a absolument rien à voir avec la voix. Zéro, zéro, zéro. Tu sais, on dit ça souvent, les chanteurs d'opéra. La seule affaire qui fait que les chanteurs d'opéra, on est bien enrobés, là, c'est parce qu'on passe notre vie dans les hôtels, puis dans les voyages, puis dans les restaurants, puis tout ça. C'est la seule raison. Puis si t'es gourmand un peu, ben là, c'est encore pire, tu sais, parce que... moi, je pense que en fait, à la fin de sa vie, elle avait pas perdu sa voix à cause de sa perte de poids, mais plutôt à cause de sa condition mentale sur... son échec avec, entre autres, Aristote Onassis, mais probablement teinté de sa mère, de son premier mari, Menighini, qui, dans le fond, l'a beaucoup aidé, mais qui avait quand même 30 ans de plus qu'elle, puis qui, finalement, il a tout pris ce que ça rapportait, puis il a mis ça dans son coffre-fort à lui plutôt qu'à elle, tu sais. Mais je pense que c'est surtout sa voix, elle l'avait encore. Moi, je suis persuadé de ça, qu'à la fin de sa vie, sa voix, elle l'avait encore, mais était juste plus capable de la...
Venez m'entendre chanter.
Venez l'entendre ne pas chanter. Tout ça pour dire que je pense que c'est ça, effectivement. Tu sais, c'est plus de l'ordre mental de ne pas avoir été capable de poursuivre sa carrière, puis de douter. Tu sais, je sais pas si vous vous imaginez ça, quand, du monde sur scène, quand on est sur scène. Par exemple, à l'opéra. À l'opéra, peu importe ce qui arrive, tout continue. Mettez-vous ça dans le principe, parce que l'orchestre dans la fosse, lui, il n'arrête jamais. S'il y a un blanc sur scène ou toi, tu as un malaise ou quoi que ce soit, l'orchestre continue, lui. Fait qu'il faut toujours que tu réussisses à revenir, à rembarquer. Mais si en plus, comme elle, tu es sur scène, tu vis avec la pression d'avoir été, je veux dire, plus grande que grande, puis que là, tout à coup, rendu à ce moment-là de ta vie, tu doutes à chaque note que tu chantes. C'est terrible. Je veux dire, c'est sûr que ça fait que c'est pas la voix, c'est dans la tête que tu vas finir par décrocher de tout ça. Tu seras pas capable de passer au travers puis d'affronter, tu sais, 2000, 3000 personnes, des fois et plus, des fois moins.
Et puis, Maria Callas, elle a pas... Elle a travaillé d'enfant, donc sa maman avait repéré le don toute petite. Elle dit même de sa mère qu'elle lui a volé son enfance. Donc, ça n'a pas été une enfant qui avait des amis, qui avait des jouets. Elle faisait des concours de chant. Après concours de chant, ça a commencé à rapporter de l'argent. Puis la maman poussait. Et rendue à l'âge adulte, elle en veut encore à sa mère de ça. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que cette femme qui a interprété si bien les plus grands rôles d'amoureuse, qui vont se tuer par amour, Médée, qui tue ses enfants, bon bref... Elle a exprimé tout avec une telle puissance. Donc, c'est sûr que dans le quotidien, dans la vie réelle, pour être Monsieur Callas, entre guillemets, ça prenait certaines qualités de cœur et d'inventivité. Là, Onassis est arrivé et lui a fait découvrir la jet set, la vie nocturne, certains abus aussi. On sort dans les restos, on boit à Taboy, on profite de la vie. C'est sûr que la voix a commencé à montrer des signes de faiblesse, mais ce que je trouve étonnant chez Maria, donc c'est cette grande amoureuse qui interprète magistralement des rôles de chanteuse à l'opéra et qui dans sa vie a si peu de chance côté cœur, parce que elle fait confiance pas forcément aux bonnes personnes ou qu'elle a une vision trop fleur bleue et surtout pas beaucoup de confiance en elle finalement en tant que femme. Pas d'amour propre suffisamment grand. Et ça, c'est vraiment ce qui est touchant. Et je crois quand même que... Moi, j'ai joué longtemps Frida Kahlo, que je vais certainement reprendre encore, mais...
Encore une écorchée?
Une écorchée, mais qui a été aimée dans sa petite enfance, Frida Kahlo. Donc, malgré les drames de l'accident qui l'ont, elle, brisée en mille morceaux, c'est pas le cas de Maria. Mais Maria Callas, quand les parents divorcent puis que la maman ne montre d'affection qu'à ta grande sœur et que tu te sens pas aimée, ça, c'est des blessures dont on a du mal à se remettre. Enfin, elle est vraiment complexe, elle est vraiment attachante, cette Maria Callas, alors que Frida Kahlo, je dirais qu'elle est attachante. Quoique, ce qui est étonnant aussi, j'ai dit, mais Maria Callas, en faisant les recherches... qui est grecque d'origine, s'appelait Maria Sofia Cecilia Kaloyeropoulos. Quand ils ont habité aux États-Unis, son père a dit « C'est bien trop compliqué, on veut te faire admettre dans la communauté, tu vas t'appeler Maria Kahlo. » Et elle s'est appelée Maria Kahlo jusqu'à l'âge de 12 ans, et c'est elle qui a décidé de devenir Maria Callas. Alors je trouve étonnant d'avoir joué pendant 30 ans Frida Kahlo, et de passer de Kahlo à Callas. C'est bizarre.
Et maintenant, c'est Sophie Kahlo Callas.
C'était la première à Sorel la semaine dernière, mais là, demain, vous êtes à Saint-Hyacinthe. Et après ça, c'est Montréal.
Montréal avec Montréal. Les journalistes, puis le... J'espère à Montréal recevoir des gerbes de fleurs.
Elle envoie le message, la commande.
Ah oui! Ça me ferait rire. Non, mais parce que vous savez que Maria Callas, elle sortait toujours avec des jarbes. Moi, j'ai même pas. J'ai une. C'est mon. C'est Robert.
Dominique qui nous a. Ouais.
Qui nous a offert des fleurs.
Ouais. Non, mais oui, oui, ça, c'est Montréal.
Mais à jouer une diva, on le devient un peu.
Oh, oh.
Je prendrais.
Ah non, mais pourquoi vous pensez qu'on est allé la chercher?
C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais il m'a dit une chose et ça m'a amusé parce que c'est, ça, c'est vraiment pas comme. Maria Callas, elle a l'habitude qu'on fasse tout pour elle tout le temps. Si elle a pas. Elle a une femme de ménage qui fait les courses, qui lui fait à manger. Qui fait... Alors, demander, elle dit non, non, il dit bouge pas. Elle a l'habitude qu'on lui fasse pour elle. Il vient me mettre mon châle. C'est une chose. Non, ça, il a fallu. Que je travaille la normalité de tout ça. Alors, mais maintenant, j'en prends goût. J'aime ça qu'on me serve, j'aime ça qu'on m'amène avec un chauffeur. J'aime. L'autre jour, il est arrivé un truc très drôle. On n'avait pas de café, puis j'ai juste dit, comme j'aimerais boire un café, un bon café. On était à Longueuil.
Dans le milieu de rien.
Dans le milieu de rien, à côté d'un énorme stationnement. Dominique Boulian, encore celui qui fait Robert Sutherland, il fait, tu veux quoi? Ben, j'ai dit, un allongé et tout ça. Il commande par Uber des cafés. Ça lui a coûté un bras. Alors, ça m'a fait...
Tout pour la diva.
Mais non.
Mais on voulait éviter la crise, tu sais.
C'est ça. Mais ça m'a touché.
Et donc, ce spectacle-là va prendre beaucoup de temps cette année, mais est-ce qu'il y a d'autres projets? Marc, t'es directeur de conservatoire.
Oui, directeur des 7 conservatoires de musique et 2 d'art dramatique du Québec. Évidemment, je suis porté par des directeurs dans chacun des établissements puis une équipe formidable. Mais on est dans une grande année parce qu'on est en train de travailler le prochain plan stratégique. On est allé chercher des sous qu'on avait manqué beaucoup depuis plusieurs années. On était très chanceux d'aller chercher ça. Et là, ça nous donne, dans le fond, les moyens de nos ambitions, tu sais, pour cette institution prestigieuse québécoise qui existe depuis 80 ans. 80 ans cette année.
D'où nous sortons tous les
d'où
deux.
D'où nous sortons tous les deux, effectivement. Et puis, voilà, donc il y a ça. Il y a toujours mon émission de radio, IC Musique. Il y a la pièce. Puis il y a Nostalgia, qui est un concert voix-piano tiré des 2 albums que j'ai fait pendant la pandémie. Là, avez-vous vu ça passer, vous autres, la pandémie? On dirait que ça fait 150 ans que c'est arrivé, hein? C'est fou, pareil. Mais tout ça pour dire que c'est ce spectacle-là que je continue. Fait que un peu d'hyperactivité.
Et on t'entend dans Toupie et Binou, le film.
On m'entend dans Toupie et Binou, le film, mais sortez pas aux toilettes parce
clignez
que vous allez
pas des yeux.
Parce que je suis vraiment pas là longtemps. Mais c'était très drôle. En fait, on est plusieurs à pas être là longtemps.
Ouais.
Mais c'est ce qui était drôle. C'est surtout... Mais moi... J'entends dans la cuisine chez nous, à un moment donné, mes filles qui sont en train de dire « Ils vont faire un film avec Toupie et Binou! » Parce que mes filles ont vraiment l'âge, elles ont grandi avec Toupie et Binou à la télé. Fait que « Ils vont faire ça! » Puis moi, je ne l'avais pas dit que je faisais un petit rôle dans Toupie. Je fais le grand chouchou. Et donc, j'arrive dans la cuisine, puis je dis aux filles, ben les filles, j'espère que vous allez aller le voir, parce qu'il est en train de s'organiser pour aller le voir. J'espère, parce que moi, je joue dedans. « Quoi? » Écoute, je pense que je leur ai dit que je chantais au Metropolitan Opera, que ça aurait eu moins d'impact. Là, les appels aux amis, on s'organise pour aller voir le film. Alors, donc, c'est ça.
Donc, la plus grande fierté de tes filles pour ta carrière, c'est le grand chouchou dans
le
film.
C'est le grand chouchou dans. Ouais, c'est ça. Tu sais, on choisit pas ensemble. Je suis là à peu près 8 secondes. Peut-être 12. Mais c'était bien le fun.
Et ça fit les projets.
Ben moi, dès le 6 octobre à Télé-Québec, enfin, en parallèle de mon métier de comédienne, j'écris des livres pour enfants. Et j'ai écrit beaucoup sur Frida Kahlo. Et donc, ils ont acheté les droits de mes 2 premiers livres. Donc, on m'a demandé là, d'écrire une série de 6 capsules de 5 minutes chaque. Donc, Frida Kahlo devient dessin d'animation, bande dessinée et animée.
C'est quand même magnifique, là. C'est beau les dessins, là. C'est incroyable.
C'est Cara Carmina, toujours. Alors bon, et ça commence à Télé-Québec dès le 6 octobre. Donc ça, c'est les surprises de la vie, que des livres deviennent animés. C'est extraordinaire. Et puis, je suis aussi porte-parole dans le cadre du Salon du livre de Montréal. Mais bien avant, il y a une campagne dans les écoles pour le plaisir de la lecture à voix haute. Pour les enfants, les inciter à lire, non pas... Hein, mais à lire des histoires, à raconter des histoires. Alors ce matin, je faisais d'ailleurs une capsule qui va passer dans toutes les écoles pour les enfants de 10 ans à peu près, où je donnais des trucs pour prendre soin du spectateur, ne pas te cacher devant ton livre, on veut te voir bien, qu'est-ce que c'était qu'articuler, qu'est-ce que c'était que projeter, etc. Mais ça me tient à cœur parce que l'année dernière, j'ai fait le tour des écoles où les enfants lisaient devant moi et tout, et c'est adorable, et ça fait des miracles. de demander à un enfant, oui, vous leur avez raconté des histoires petits, mais maintenant, c'est à leur tour qu'ils vous racontent des histoires. Donc, c'est mon côté tante Lucille. C'est ma transmission, on parlait, mais...
Donc, on n'avait pas entendu ça, la référence à tante Lucille, hein, quand même.
Et puis, je garde toujours mon amour pour la Gaspésie. Alors, je vais aller marcher en randonnée, là, tout le début octobre, la traversée de la Gaspésie. Ça, c'est des 25 km de marche par jour. Ça m'aère, puis ça fait que je reviens, là, pour jouer Maria Callas, je vais être gonflée à bloc. Réénergisée. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est un bel automne, puis vraiment un grand bonheur de me retrouver avec Dominique Boulian et Marc Hervieux pour cette tournée qui, j'espère, aura beaucoup de succès partout. On vient vous voir partout. Puis Marc Hervieux, qui se déplace, c'est à ne pas rater.
Mais c'est vrai qu'il y en a comme presque une trentaine déjà. Donc, et puis il va s'en rajouter. Alors, si on vient dans votre coin, là, évidemment, ici, à Sorel,
vous êtes venu.
On vous a joué un tour, on est venu la semaine passée. Vous avez servi de cobaye, comme on a dit. Mais qui sait, on reviendra peut-être d'ici pendant la tournée.
Productionmartinleclerc.com pour les dates.
Chaque fois que je dis Martin Leclerc, il me donne 20$. Alors, c'est les productions Martin Leclerc.
T'as dit quoi? C'est quoi?
Martin Leclerc.
Martin Leclerc, hein, Martin Leclerc. Oui.
Ça t'arrondit ton chèque, ça.
Sophie, Marc, merci d'avoir été là.
Merci, Luc. Merci à toi. Bravo encore une fois pour tout ce que tu fais pour Enfants Soleil, entre autres. Moi, je suis toujours impressionné. Je suis ça sur tes réseaux sociaux.
Arrête d'être impressionné.
Non.
Puis au prochain.
Ben non, mais là, ça donnait jamais.
On va y aller.
Mais je participe d'une autre façon à chaque fois.
Vrai.
Mais ça ne donnait jamais. Mais si ça donne, c'est sûr que je vais être là.
Ben, si ça donne, moi aussi.
Parfait. Ben, merci beaucoup.